à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la manifestation antifasciste du samedi 14 décembre qui a eu lieu au Mans. Pour ce posé à la récupération par les FAF d'une cérémonie royaliste pour commémorer la bataille du Mans de 1793. Ça ne rajeunit pas. Les antifascistes du coin appelaient à une manifestation. Celle-ci n'a réuni qu'une trentaine de participants, mais si la légitimité était liée au nombre, ça voudrait dire que les FAF ont raison, puisqu'au moins une cinquantaine d'entre eux traînaient en ville ce samedi soir. Et notamment, ils étaient occupés à défier les antifas regroupés devant le bar Le Lézard, qui avait été attaqué en 2019. Samedi, aux environs de 20h, une quarantaine de FAF passent devant le bar et invectivent les personnes présentes sur la terrasse. Avant de se placer quelques mètres plus loin, rue de la Barillerie, devant feu le comptoir. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, était présent. Place de la Sirène avec des policiers municipaux. Les FAF ont crié des slogans, dont le fameux « Europe Jeunesse Révolution », qu'ils ont taxé aux jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub, ouais, pour les anciens, et qui a été repris depuis par le groupe Union Défense, le GUD, qui a pour symbole un rat, ce qui n'est pas tout à fait simple. Et puis tout à coup, on a entendu ça.
Sérieux, on est où? On est au Mans ou quoi là?
Alors, quelle est la portée politique d'un tel slogan, antifa pédophile? C'est un mystère. Ça fait une semaine que je me pose la question. Allez savoir sur quoi c'est basé, on ne sait pas. Alors, de là à aller leur demander non, d'où la réaction peut-être de la femme qui leur propose de se soigner. Là, je ne voudrais pas psychiatriser les opposants politiques, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Une minute plus tard, ils partent. Ils partent comme ils étaient arrivés, vers la place de l'éperon, sans demander leur reste. C'est alors que le maire tente d'obtenir le silence en répétant plusieurs fois « Va boire ton coup » à ceux qui lui demandent si la présence de cette bande dans les rues est normale. Et arrive la police nationale. Oui, une fois que les FAF sont partis, hop, eux arrivent. Ils finiront par être 25 devant le Lézard, autant que d'Antifa d'ailleurs. Le dialogue n'est pas très courtois et aucun policier ne dit en aparté aux personnes présentes « C'est bien ce que vous faites pour la France ». Non, personne. Présent, j'enregistre et j'enregistre ça.
Pas la peine d'enregistrer, monsieur.
Vous êtes flic, vous êtes pas
inquiétez
cow-boy.
Pas. Oui, c'est vrai.
Il y a un
tout à fait, ouais.
Arrêtez un petit peu, là. Arrêtez.
Qu'est-ce qui fout le bordel à côté? C'est vous. C'est pas les autres.
Ah, vous étiez pas là quand ils gueulaient leur slogan fasciste.
Ça fait plaisir.
Ne regarde pas, alors.
Alors, vous entendez, il y a quelqu'un qui crie. Qui crie, me regarde pas. Alors, attention, c'est la même voix que là.
Oui, c'est vrai. Tout à fait, ouais.
Vous avez entendu?
Oui, c'est vrai. Tout à fait, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Eh ben, ça, c'est un policier, ça. Oui, le hurleur qui exige qu'on ne le regarde pas, c'est un policier. Celui qui, juste avant, affirme que ce sont les antifas qui foutent le bordel, c'en est un autre. C'est un policier. À aucun moment, la troupe en bleu ne cherche la désescalade. Non, non. Elle est même plutôt dans la provocation. Et pendant ce temps-là, les FAF sont dans la nature. L'intervention policière est totalement incongrue. Intervenant après la bataille, si on peut appeler bataille quelques noms d'oiseaux échangés à base de pédophilie et d'antifa, qui furent échangés donc quelques minutes auparavant. La police s'attaque aux attaqués, allez comprendre pourquoi, sans jamais chercher à comprendre ce qu'il se passe. Non. Quand un gradé arrive, tout à coup, les flics de base se calment. Et finalement, ils repartent comme ils sont arrivés, avec rien à dire, rien à faire. En fait, il ne s'est rien passé, à part « Ne regarde pas ! Ne regarde pas !» Alors, heureusement, peut-être qu'il y avait des témoins, parce que vous rencontrez l'homme en question dans une grande rue sombre, et puis vous avez le malheur de le regarder, ça risque de mal se terminer, comme ça se termine régulièrement mal pour un certain nombre de personnes. Rappelons que une cinquantaine de personnes ont été tuées depuis le début du XXe siècle, du 21e siècle, pardon, par des policiers qui, peut-être, à un moment, ont été mal regardés. On ne sait pas. Alors, appelés par une autre mission républicaine, ils sont donc repartis. Alors, à quoi on avait reconnu le gradé ? Ben, parce qu'il a des palmes sur les épaulettes. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et quand on lui demande s'il est normal, parce qu'il est arrivé au moment où l'autre gueulait « Ah, me regarde pas ! Me regarde pas !» Eh ben, il répond pas. « Ah, mais j'étais pas là au début. » Donc, ça, le fait qu'il parle comme ça à quelqu'un, ce policier, serait justifiable. On est resté pantois. Le reste de la soirée se passe sans aucun incident, au moins au niveau du bar. Est-ce que des faves se sont attaquées à d'autres personnes ou sont allées noyer leurs bêtises dans de l'alcool bon marché ? Mystère. On n'en sait pas plus. Mais pour tous ceux qui voient dans cette action un épiphénomène, c'est rien. Ces deux bandes qui, bon, une troisième avec la police, hein, parce que vraiment, ils agissent comme s'ils faisaient partie d'une bande, laquelle, je vous laisse deviner. Il convient de rappeler qu'il faudrait peut-être pas attendre que la menace grandisse. Et c'est peut-être la meilleure solution, la meilleure attitude à adopter que de ne pas attendre que cette menace grandisse. Aussi, quand un nouvel appel à manifester contre des idées fascistes tombe sous vos yeux, je sais pas, par une affiche, un tract ou dans votre boîte mail ou vos réseaux sociaux, souvenez-vous que les FAF tuent. On aurait pu vous parler de l'impunité zéro pour les délinquants. Nicolas Sarkozy a vu son pourvoi en cassation rejeté dans l'une des nombreuses casseroles qu'il traîne depuis qu'il n'est plus pété de la rep. Le plus petit de nos grands hommes a été condamné à 1 an de prison aménagé sous bracelet électronique pour corruption active. Il avait promis un poste à un magistrat pour avoir des informations sur l'affaire Bettencourt et savoir s'il n'était pas un petit peu dans l'eau. On ne sait pas quoi. Eh bien, sachez qu'il va en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, c'est ça. La fameuse hubris, vous savez, la démesure, alors que tu devrais te faire tout petit pour avoir utilisé ton pauvre petit pouvoir pour corrompre quelqu'un, tu joues les victimes d'une cabale de tes ennemis politiques et tu mobilises des moyens démesurés pour sauver ton honneur. L'honneur, celui-là même que tu as traîné tout seul dans la boue avec tes actions. Ah, Nicolas Sarkozy. On aurait pu vous parler de la convergence des luttes. Jeudi 19 et vendredi 20 décembre avaient lieu des manifestations dans la capitale régionale, Nantes, pour signifier à Christelle Morancé et ses soutiens la désapprobation populaire quant à son budget 2025. Elle assume. Elle assume d'être impopulaire. Christelle Morancé, oui, pour le monde de la culture, elle assume. À propos du sport amateur, elle assume aussi. À propos de la défense de l'égalité homme-femme et à propos des associations qui se battent contre les violences faites aux femmes, elle assume aussi d'être impopulaire. À propos des jeunes en galère, c'est pareil. Elle assume complètement. Ah, sans doute qu'elle se soucie plutôt de flatter son électorat de droite, oui, parce que ses soutiens le disent bien, hein. Les membres de ces associations et les gens qui y participent ne sont pas forcément leur soutien politique. Alors, elle utilise l'argent de la région pour faire quoi ? Du clientélisme. Oui, c'est le mot. Du clientélisme. Le budget a bien été voté vendredi 20 décembre par la droite, le centre et le RN, toujours bien associés l'ensemble. Il établit donc 82 millions d'économies, dont une bonne part sur les subventions de fonctionnement. Tiens, on l'a déjà dit, mais bon, des associations culturelles, des associations sportives, des associations de défense de l'égalité homme-femme, etc. La lutte continue, convergence au pluriel 72.fr pour avoir des informations localement. On aurait pu vous parler de la guerre aux vivants. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette semaine l'autorisation environnementale qui avait été délivrée en 2017 pour les retenues du marais Poitevin, dont celle de Sainte-Soline. Les fameuses retenues, ce sont les méga-bassines. Des gros trous que l'on creuse, on remplit avec de l'eau qu'on a pompée un petit peu partout. Et puis, après, on espère que ça ne va pas trop se trophiser. On espère qu'il n'y aura pas trop d'évaporation à cause du soleil, et puis on pourra arroser du maïs. Oh, ça, c'est trop cool. Eh bien, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que l'implantation de ces structures dans des zones sensibles représentait une menace pour un oiseau, notamment, il n'est pas le seul, hein, l'outarde de canne-petière. Deux fois, oui, parce que ça fait deux fois qu'une cour administrative indique que l'autorisation environnementale délivrée en 2017 pour ces retenues est annulée. La première fois, en première instance et puis la seconde fois par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Et bah, du coup, normalement, c'est retenu, hein, ces méga-bassines n'auraient jamais dû être construites, jamais dû être défendues par les gendarmes, ça n'aurait jamais dû occasionner des manifestations et donc du tir inconsidéré par des gendarmes qui s'amusent à balancer sur du gauchiste. Hein. Bah oui, on rappelle quand même qu'une majorité de gendarmes et de policiers votent pour le Rassemblement National. Ouais, ça craint un petit peu quand même. Tout ça n'aurait jamais dû arriver si les travaux avaient été suspendus en attendant que la justice se décide. Ça a failli arriver pour l'A69, la même chose. Le tribunal administratif de Toulouse a rendu un avis le 9 décembre. Ce tribunal administratif de Toulouse a indiqué que l'instruction était réouverte et qu'une autre audience était annoncée dans quelques mois, alors que la rapporteure publique proposait dès le 25 novembre l'annulation de l'autorisation environnementale du chantier en l'absence de, je cite, « raison impérative d'intérêt public majeur R2IPM ». Eh bien, du coup, le tribunal administratif n'a pas suivi ce que proposait la rapporteure publique, qui pour une fois propose une annulation. Pourquoi ? Eh bien parce que l'État a promis de redonner un petit peu de sous pour le prix du péage. Il faut tout reconsidérer alors. Tout reconsidérer pendant les quelques mois, devinez ce qui va se passer. Les travaux vont continuer. Et une fois que les travaux auront été terminés, il sera dit non, mais tout ça était totalement illégal. Bon, on se rappelle quand même que la bourgeoisie continue à se défendre et qu'elle utilise la justice. Ça craint, ça craint énormément. C'est malgré tout ce qui se passe dans notre beau pays. Mais finalement, devinez, on a préféré vous parler de la Syrie. De la Syrie et surtout du Rojava, dont le nom officiel est Administration Autonome du Nord-Est Syrien, ANS, un territoire attaqué par la Turquie et ses supplétifs islamistes, des islamistes qui ne font pas dans la dentelle comme ceux qui ont fait tomber Bachar el-Assad. Pour l'instant, apparaissent comme raisonnables, ce qui plaît aux médias. Au Rojava, pas de modération pour plaire aux idiots utiles du gouvernement expansionniste turc. Plutôt des attaques de drones turcs régulières, de l'armée turque, et des milices islamistes contre cette entité où s'applique la démocratie directe et le communalisme. Eh oui, et puis comme cette petite introduction, on vous l'a faite la dernière fois, on va pas continuer, on va tout simplement repasser à un extrait de ce qu'on avait passé en 2021 avec un certain monsieur Banche, qui était présent à une réunion. On vous présente tout ça, je vous présente tout ça, et puis on écoute celui qui nous en parle. Ça nous donnera l'occasion dans les prochaines semaines d'actualiser un petit peu ce qui se passe au Rojava. Le Rojava, c'est une région à majorité kurde située au nord-est de la Syrie. Rojava, yé, Kurdistané, je ne sais pas du tout si je le prononce correctement. En tout cas, ça veut dire Kurdistan occidental. Car le Kurdistan, pays qui n'existe pas, s'étend sur quatre territoires, quatre états. En l'occurrence, la Turquie au nord, l'Iran pour le sud-est, l'Irak pour le centre-sud, pourrait-on dire, et la Syrie pour le sud-ouest. En 2012, alors que la guerre civile syrienne battait son plein, les autorités de Assad ont rapatrié leurs troupes dans les régions de l'Ouest pour lutter contre les opposants ayant pris les armes. Aussi, de fait, les territoires à majorité kurde se sont retrouvés à se gérer eux-mêmes. Ils se sont retrouvés autonomes. Donc depuis 2013, le Kurdistan en Syrie, qu'on appelle donc le Rojava, a mis en place une administration autonome sous l'égide du Parti de l'Union démocratique, le PYD, qui est proche du PKK. Le PKK, c'est un parti kurde turc qui anime la guérilla contre les autorités turques. Le PKK est dirigé par Abdullah Öcalan, qui est prisonnier des Turcs depuis 1999. Le PKK était un parti marxiste-léniniste pur et dur avant que Abdullah Öcalan n'entame une correspondance avec Mehmet Bukchin. Déjà vu lui. Au milieu des années 2000, ainsi, le PKK a fait sien, le modèle du municipalisme libertaire de Bukchin, basé sur le concept d'écologie sociale. Alors, je vous renvoie sur les fiches Wikipédia de municipalisme libertaire et d'écologie sociale pour en savoir un peu plus. Le PKK et Öcalan en font donc une doctrine politique appelée le confédéralisme démocratique, avec d'autres sources. C'est-à-dire une démocratie directe basée sur un réseau local, les communes, qui sont des entités politiques autonomes dans leur quotidien et fédérées pour gérer les territoires à plus grande échelle. Le PYD, donc, parti dominant au Rojava, est sur cette ligne, la ligne du confédéralisme démocratique. Voilà pour l'introduction. Mais pourquoi vous parler du Rojava aujourd'hui ? Eh bien parce que samedi 9 octobre, l'Union communiste libertaire, un parti communiste libertaire, comme le nom l'indique, et les anarcho-syndicalistes de la CNT organisaient une journée d'information sur le Rojava. Pour en savoir un peu plus et se demander si ce qu'on entend dans les médias militants ou pas est réel. Une trentaine de personnes sont venues à la maison de quartier Fulbert-Masson, près du cinéma Le Royal, au Mans, pour écouter deux intervenants, dont Pierre Banse, qui se présente lui-même. Très bien.
Je m'appelle Pierre Banse, je suis un militant libertaire, j'étais longtemps syndiqué à la CNT. Sur le plan professionnel, j'ai fait du droit, j'étais assistant à la fac de droit de Paris, et après je suis devenu journaliste et enfin j'ai terminé comme éditeur. J'éditais un hebdomadaire pour les travailleurs sociaux.
J'étais, nous dit Pierre Banse, car le voilà retraité. Une retraite active dans le sens où il en profite pour écrire des livres.
Notamment en 2017, Un autre futur pour le Kurdistan, municipalisme libertaire et confédéralisme libertaire. Et surtout en 2020, aux éditions Rouge et Noir également, La fascinante démocratie du Rojava. Alors pourquoi fascinante ?
Pour moi, le plus fascinant, c'était le système politique qu'ils mettaient en place. C'est même ma motivation qui m'a fait me pencher sur la question, puisqu'on entendait des discours différents. Certains disaient que ça y est, le municipalisme libertaire était installé au Rojava, alors que d'autres disaient tout ça, c'est des blagues, c'est le PKK qui n'a pas changé, qui dirige tout. Donc, pour comprendre, j'y suis allé voir moi-même et on arrive à quelque chose qui est fascinant, oui, parce que dans leur contrat social, on va dire que c'est leur constitution, on pourrait discuter sur la nature juridique réelle de ce document, mais enfin leur constitution, ils disent à la fois qu'ils sont un pur système communaliste et un vrai système parlementaire. Ils vont essayer de mettre en place, en fait, une période transitoire, on peut dire, qu'ils appellent un peu souvent la nation démocratique. C'est-à-dire qu'ils se sont bien rendus compte qu'installer un système de communes fédérées, là-bas, au Rojava, où personne n'avait cette culture politique, en fin de compte, c'était risqué, voire voué à l'échec. Donc ils ont préféré affirmer le principe et mettre en place des institutions, en fin de compte, très traditionnelles, qui correspondent aux institutions d'une démocratie parlementaire, avec une assemblée, qui s'appelle le Congrès des peuples démocratiques, qui est une assemblée nationale, donc, et aussi un exécutif qui pourrait correspondre à un gouvernement. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, ça, c'est sur le papier, mais ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Donc, c'est ni une démocratie directe, ni une démocratie parlementaire, en fin de compte, parce que la situation politique ne leur a pas permis de faire des élections, à cause des attaques de la Turquie, notamment. Et donc, ils ont institué, on va dire, ce qu'ils appellent le Conseil général, qui est composé de 70 membres. Il y a 49 membres qui viennent des régions et il y a 21 membres qui sont des personnes prises pour leurs compétences. Alors évidemment, on va dire que tout ça, c'est pas très démocratique parce qu'on ne sait pas trop comment viennent les délégués des régions et puis on ne sait pas trop comment sont choisis les techniciens. Mais on n'est pas dans une situation qui permet d'être autrement qu'une, ce que moi j'appellerais une démocratie révolutionnaire. Dans la mesure où, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas mettre en cause la volonté des dirigeants, des élus, des délégués de parvenir à cette fédération des communes. Je crois que ce sont des gens honnêtes. Et d'autre part, il y a un autre élément qui fait qu'on peut dire que c'est une démocratie révolutionnaire, c'est que les libertés publiques y sont protégées plus que partout ailleurs au Moyen-Orient.
fascinante donc aussi par sa localisation, le fameux Moyen-Orient où émergea l'État islamique, où se trouve l'Arabie saoudite, où les droits des femmes, des étrangers, des pauvres ne ressemblent pas vraiment aux standards des démocraties représentatives européennes. Le Moyen-Orient où se trouve également Israël, dont je rappelle le droit religieux gère encore le divorce, qui ne peut être accordé que si le mari le veut bien. Et c'est dans ce Moyen-Orient que le contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord et de l'Est affirme par exemple, article 17, la Fédération démocratique de la Syrie du Nord respecte la déclaration internationale, bon ils ont sans doute voulu dire universelle, respecte la déclaration internationale des droits de l'homme et toutes les chartes de droits de l'homme associées. Ouh. Article 18, le droit à la vie est un droit fondamental garanti par ce contrat, la peine capitale est interdite. Article 19, la dignité humaine est préservée, la torture physique ou psychologique est interdite, ceux qui s'en rendent coupables seront punis. Article 20, 21, et ça continue comme ça sur le respect de la liberté de conscience, de croyance. Waouh. On y reviendra la semaine prochaine. Donc, en pratique, pour l'instant, un conseil général représente la population. Pierre Bance nous en dit plus.
Ce conseil général lui-même a désigné un exécutif. Bon, on l'appelle l'administration autonome de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord et de l'Est. Bon, c'est un gouvernement qui ne veut pas qu'on l'appelle gouvernement, avec des ministres qui ne veulent pas qu'on les appelle des ministres, hein, mais des délégués en fin de compte, et avec un président, un homme et une femme, puisque toute institution civile ou politique, publique, dans la fédération, est toujours composée d'un homme et une femme. Je dirais, ils font du mieux qu'ils peuvent dans les conditions particulières de la guerre, puisqu'en fait c'est la guerre, puisqu'il y a un harcèlement continuel de la Turquie au nord, et puis à l'intérieur même, l'État islamique n'est pas mort, hein, il faut encore le combattre. Donc voilà, en gros, si vous voulez, les institutions de la Fédération démocratique.
On va revenir sur la façon dont ça s'est un petit peu organisé. À partir de 2014, il y a une charte du Rojava, un texte déjà, et qui donne un peu plus tard le contrat social de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord. Ce contrat social, qui est donc une constitution qui ne dit pas son nom, par qui a-t-il été rédigé ?
Il y a eu une assemblée constituante qui était composée de délégués venant de toutes les régions. Alors en 2016... au moment de la rédaction, il y avait encore que ce qu'on appelait à l'époque les cantons kurdes, qui maintenant sont des régions kurdes, et une région arabe qui était Minbij. Les autres étaient Raqqa, Tabqa, des régions n'étaient pas encore libérées. Donc c'est des délégués de toutes ces régions. Alors s'il n'y a pas d'élection, ce dont on peut discuter, par contre il y a toujours un souci de faire en sorte qu'il y ait une représentation équitable des femmes, une représentation équitable de chacune des ethnies. Les trois grandes, c'est les Kurdes, les Arabes et les chrétiens. Ça fait une ethnie, c'est les Arabes qui sont chrétiens, quoi. Mais bon, bref. Et cette assemblée constituante a élaboré ce contrat social qui était promulgué en décembre 2016. Hein. En ce moment même, il est en voie de révision pour donner au système une légitimité. Alors que je disais tout à l'heure que bon, la légitimité démocratique telle qu'on l'entend nous, elle n'est pas assurée. Hein.
En France, par exemple, est légitime celui qui est élu, même avec 99% d'abstention. Les élus sont alors considérés comme légitimes. Et donc, au Rojava, augmenter des régions arabes, le Rojava étant donc ce sont donc les régions à majorité kurde dans le nord de la Syrie, augmenter des régions arabes libérées, donc l'ensemble, la fédération de la Syrie du Nord et de l'Est, eh bien, comment ça se passe sur la légitimité ?
Et là, il y a une volonté de repenser le contrat social parce que depuis, il y a des régions en plus. Et aussi pour faire des élections qui permettent d'asseoir le système. Alors, ces élections, c'est des élections parlementaires. Hein, si elles ont lieu, elles auraient dû avoir lieu déjà. Mais si elles ont lieu, ce sera un système parlementaire. C'est pas ce qu'on pourrait imaginer comme dans une démocratie directe, c'est-à-dire des délégués des communes qui se réunissent. Dans le contrat social actuel, le statut des élus, il n'est pas révocable, il n'y a pas de rotation prévue, c'est comme des députés, quoi. Ils n'ont pas un mandat précis à exécuter, c'est leur conscience le mandat qu'ils ont à exécuter.
Donc ça ressemble étrangement à ce que nous vivons dans nos démocraties représentatives.
quand ils ont élaboré la charte du Rojava, ils ont beaucoup pensé au contrat social de Rousseau, à la Révolution française. Donc ils sont venus à élaborer un système démocratique, volonté d'arriver à une démocratie directe, mais en même temps nécessité de passer par une phase provisoire. Donc c'est difficile de les critiquer sur ce point-là, parce qu'il faudrait toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on ferait si on était à leur place, hein, ouais. Et donc, en prenant ce chemin aussi, ils s'assurent une légitimité internationale, parce qu'ils ont beaucoup de mal à être reconnus internationalement. Pour les diplomaties internationales, le Rojava, c'est qu'une région de la Syrie, en fin de compte. Donc là, ils font un gros effort. Les délégués de la fédération vont dans tous les pays pour essayer de se faire reconnaître en tant que tel et pas simplement d'être, en fin de compte, une milice au service des Américains pour éliminer l'État islamique. Donc ça, c'est très compliqué pour eux, parce qu'au point de vue du droit international, ça n'existe pas, quoi. Donc ça crée des problèmes, hein, pour les papiers, par exemple, des gens. L'aéroport international de la région, il est toujours sous le contrôle d'Assad, parce que s'il passait sous le contrôle des Kurdes, ce qu'il pourrait faire, hein, militairement assez facilement, l'Organisation internationale de l'aviation ne les reconnaîtrait plus, donc il n'y aurait plus d'avions de ligne internationale qui atterriraient. C'est des détails comme ça qui font que tout doit être négocié, hein, et réfléchi, et qui empêche d'aller vite, parce qu'on pourrait dire quand même que depuis 2014, donc depuis la charte du Rojava, sur le plan institutionnel, on stagne.
Alors on stagne, mais l'environnement est pour le moins hostile. Les Turcs, les Syriens, l'État islamique, personne ne souhaite qu'une démocratie radicale s'installe à ses frontières. Ça pourrait donner des idées aux populations locales. Il existe quand même des représentations du Rojava et de la Fédération de la Syrie du Nord et de l'Est dans de nombreux pays, comme à Paris, rue de Rivoli. Mais aucun pays ne reconnaît la Fédération. C'est juste un endroit, une région de la Syrie. Stagnation au niveau institutionnel, mais l'idée du communalisme est toujours d'actualité. Pierre Bance nous en dit plus.
Bien qu'il y ait un effort qui a été fait pour installer des communes, parce que les communes, elles ne sont pas nées spontanément comme en Espagne en 1936. Il faut pousser les gens à les faire, il faut trouver les militants qui sont capables de les construire, de les faire vivre. Donc ça a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Et surtout, ils rencontrent dans les régions arabes des difficultés pour installer des communes, parce que le système n'est pas tellement compris. Ils se heurtent aux traditions, la tribu par exemple, ou le clan. Donc les gens disent, mais pourquoi faire une commune? On a déjà notre tribu, quoi. Ça fonctionne comme ça, donc ils ont beaucoup de mal. Mais ils essayent.
Dans le municipalisme libertaire, dans le communalisme démocratique, qui est donc une variante, il y a l'idée que la commune sert de base, et qu'ensuite, de manière ascendante, les communes fédérées peuvent ensuite décider de certaines choses sur un plan beaucoup plus large, en tout cas au niveau géographique. Alors, quelle est la réalité des communes et de leur pouvoir?
Alors, ce que tu as décrit, c'est l'objectif, donc. Hein. Alors, la réalité des communes, c'est qu'il y a des communes, effectivement, il y en a plusieurs milliers, notamment dans la partie Rojava de la fédération. Alors, ces communes, elles ont plusieurs rôles. C'est-à-dire qu'elles peuvent être à la fois des lieux de conciliation entre les populations, conciliation juridique, hein, locale, elles peuvent être un lieu d'information des gens, elles peuvent être un lieu d'organisation du quartier, enfin, sur son territoire. Par exemple, en ce moment, il y a des pénuries de gaz, de bouteilles de gaz au Rojava, c'est eux qui s'organisent pour faire la répartition entre les familles. Et on pourrait penser qu'elles ont un rôle politique plus important que ça. C'est difficile à dire parce que leur expression, c'est plutôt revendicatif que de prendre les choses vraiment en main. Je parle au plan politique. Elles jouent un peu les rôles de toutes ces révolutions qui ont eu des comités, mais qui n'ont pas eu vraiment le pouvoir comme c'était prévu. C'est-à-dire qu'elles vont s'adresser, par exemple, à la municipalité, hein, pour lui dire, bah, je sais pas, il faudrait regoudronner la route, c'est tout défoncé. Mais ils n'iront pas prendre le matériel de la commune et de le faire eux-mêmes. C'est comme ça aussi parce que, comme beaucoup de responsables du Rojava le disent, on a un gros travail de formation, de conscientisation à faire des personnes sur ce plan-là, parce que c'est pas dans la tradition, il n'y a pas eu de préparation politique avant la Révolution, c'est tombé comme ça.
Eh oui, c'est arrivé comme ça. La région kurde de la Fédération est un peu plus en avance que les régions arabes. Cependant, la culture politique est à renforcer dans toute la Fédération. Un travail de longue haleine, imaginez. En Europe, la démocratie est soi-disant en place depuis plus d'un siècle et pourtant, l'immense majorité de la population continue à croire que ce concept politique se réduit à voter pour quelqu'un qui exercera le pouvoir à votre place. Alors, qu'en est-il du Rojava et de la Fédération? Eh bien, on continuera à en savoir plus la semaine prochaine. Et en attendant de se retrouver, je vous dis tout simplement allez, au revoir.